métier.
Ils viennent pas?
Bah si, mais...
Il manque plusieurs personnes, mais c'est pas grave.
Viendront. On peut attendre un peu, si tu veux.
Bah non, je sais pas quelle heure. Il est quelle heure?
Il est 8.
Ah ouais, quand même. Non, mais on commence.
Ah bah, mmh. Et puis, il vient, ça les fera venir à lundi.
Ouais, déjà.
Ça dure une heure?
Ouais.
Ouais, donc on peut commencer, je pense.
Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous pour la rentrée des jeudis de la BD. On a la chance d'accueillir ici à la BPI Zoé Sauvage. Bonjour Zoé.
Bonjour Sonia.
Vous êtes l'autrice des Faits scientifiques, une bande dessinée publiée chez Cambourakis, votre première bande dessinée. Oui. Extrêmement riche et intelligemment mise en scène, absolument passionnante. Les faits scientifiques racontent l'histoire de Zoa, on est dans les années 2030, en 2037 très exactement. Dans ce monde, la nature est circonscrite à des périmètres très délimités. Zoa, elle le dit au début de la bande dessinée, elle n'a pas vu d'oiseau depuis ses 10-12 ans. Elle est étudiante et elle rêve d'être prise en stage à Ecotopia. Un immense parc interdit à toute présence humaine, et elle va y parvenir, à être en stage dans ce parc, et plus encore. Alors avant de parler dans le détail de ce parc, de ce que Zoa va y vivre, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de ce qui vous a mené à la bande dessinée. Alors vous avez fait des études scientifiques, mais vous avez toujours dessiné, toujours créé. À quel moment est-ce que la bande dessinée c'est quelque part imposé à vous?
Alors, c'était assez tardif, il y a quelques années, il y a 4 ans. Après, j'ai toujours été passionnée de BD depuis enfant, mais j'ai surtout essayé les médiums de l'audiovisuel après mes études scientifiques. J'ai fait un documentaire sur les abeilles.
Sur le frelon asiatique, je ne l'ai pas trouvé.
C'est un film de guerre qui s'appelle Frelon asiatique, le loup dans la bergerie. Et ça fait peur, c'est vraiment terrible. Et j'ai passé un an à le faire, à tourner toute seule, à le monter. Voilà, j'ai tout fabriqué, la promo, etc. Et ensuite, j'ai fait un projet de dessin animé pour enfants sur la nature. Donc avec une grand-mère scientifique, Mémé Starbé, qui a amené ses petits-enfants au fin fond du jardin pour leur faire vivre d'incroyables aventures. Et en fait, ça n'a pas été acheté par une chaîne télé, mais c'était vachement soutenu par le CNC, Orange, plein de... Et SACD aussi, je crois. Mais finalement, pas acheté. Mais bon, peut-être qu'un jour, j'en ferai un autre objet, je ne sais pas.
Mais justement, cette envie, vous dites, après mes études, j'ai fait un film, il y avait un projet d'animation. Cette idée d'être dans la médiation, c'était quelque chose qui a été une évidence de vous dire je ne vais pas poursuivre dans la recherche, mais je vais au contraire essayer d'être comme un pont entre ces chercheurs, ces scientifiques que j'admire, qui ont plein de choses passionnantes à nous faire découvrir, et le plus grand public qui s'intéresse de manière générale, j'ai l'impression, aux sciences, mais qui forcément n'a pas forcément conscience de toutes les recherches en cours et de tout ce qu'on ne sait pas encore de la nature en l'occurrence, mais aussi dans d'autres domaines.
Oui, pendant mes études, j'ai vu que les sujets donc, d'écologie, de comportement animal, de génétique des populations, tout ça, ça me passionnait, j'adorais en parler, et en parler aux copains, à la famille et tout, et je voyais qu'ils découvraient un monde totalement nouveau, quoi. Alors que pour moi, c'était évident, enfin, je sais pas, c'était juste un peu plus poussé que ce que je connaissais, mais depuis toute petite, j'observe la nature et tout, mais là, vraiment, à chaque fois, c'était « ah bon, mais non », enfin, genre, un émerveillement qui fleurissait aussi chez eux. Je sais, mais c'est quand même dommage que ça soit, enfin, que ces questions-là soient un peu circonscrite au milieu scientifique, alors que les gens peuvent être intéressés, ils sont de plus en plus intéressés par la nature. Mais vraiment, connaître les processus et les rendre processus naturels, les rendre accessibles et intéressants et fun, même fun, voire magique, ça a tout de suite été une évidence, ça, par contre. Quand j'ai su que c'était pas pour moi d'être scientifique, chercheur, de rester sur un modèle pendant X années, que moi, j'avais besoin de divaguer un peu plus sur certains sujets, je me suis dit, là, clairement, il y a un besoin, il y a une demande. En tout cas, moi, je trouvais qu'il y avait un gros manque et que je me sentirais bien là-dedans, dans la vulgarisation. Après, j'ai été vers des médias un peu de vulgarisation. Il y en a très peu en France, en tout cas à l'époque. Et c'était dur. Je me suis dit, bah, je vais créer moi-même ma façon de faire peu à peu. Donc, avec ce premier film de documentaire sur les abeilles, par exemple. Et voilà.
Et que vous offre la bande dessinée la liberté, justement. On disait, vous parliez de ce projet de film d'animation. Bah, c'est très dépendant des financements. La bande dessinée, c'est aussi, on va en parler, c'est une grande liberté aussi parce que vous avez décidé de placer cette histoire en 2037. Mais ça permet aussi de laisser aller l'imaginaire. Il y a des pleines pages d'un seul coup avec énormément de couleurs et une grande liberté dans la représentation de certains phénomènes. Et c'est ça que vous aimiez dans la bande dessinée, c'est cette liberté qu'offrait le dessin.
Oui, déjà de créer tout un monde à partir de mon imaginaire, oui, visuel à moi. Après, c'est pas sans limite. Il y a aussi la limite technique du dessin, ce que je suis capable de faire, etc. Mais en fait, je me suis complètement décomplexée par rapport au dessin, en voyant arriver des BD plus alternatives avec des styles très personnels et qui ne suivent pas les règles de la BD traditionnelle. Par exemple, les perspectives, maintenant on peut dire, allez, je m'en fiche, ça m'a plu, par exemple, tout de suite. Voilà.
L'anatomie.
Et pourtant, j'ai fait du modèle vivant, mais j'aime pas être trop carré et tout. Et ça m'a un peu frustrée de pas pouvoir exprimer, d'ailleurs, en modèle vivant, ce que je voulais. Ça.
Oui, parce qu'il y a la réalité entre guillemets du dessin, mais il y a ce que dégage un corps, et ce qu'il dégage ne passe pas forcément justement par une représentation réaliste.
Oui, c'est ça.
C'est plus important ce que ça dégage.
Oui, et puis dans une case de BD, c'est pas le réalisme le plus important, c'est un mouvement, c'est comprendre en un instant ce qui se passe. Et des fois, j'étais pas forcément contente d'une case en me disant ah, vraiment c'est mal fait ça, mais on comprenait tout de suite que. Qu'elles étaient à travers, je sais pas, des graminées, et qu'on comprenait qu'il y en a une qui cachait l'autre. Et bon, moi, ça me suffisait. Si l'information passe, c'était ce qu'il me fallait. Et j'essayais de pas parfaire les choses. Juste que le minimum de l'information soit correcte, quoi. Enfin, je sais pas comment dire.
Et c'est vrai qu'en lisant votre bande dessinée, on se dit que c'était le médium parfait pour raconter cette histoire. C'est une bande dessinée dans laquelle on apprend énormément de choses, notamment à travers des figures féminines importantes, et on va en parler. Mais j'aimerais que vous nous parliez, pour commencer, de la façon dont vous avez voulu justement traiter ce savoir, cette matière scientifique. Vous auriez pu, et il y en a pas mal actuellement, des bandes dessinées pédagogiques, didactiques. Ce n'est pas le cas dans les faits scientifiques, ou en tout cas, ça passe, et je trouve que c'est d'autant plus puissant, ça passe par une fiction. Ça, c'était présent dès le départ, cette envie de créer un univers et de se dire, je vais embarquer les lecteurs dans ces découvertes et dans cet apprentissage à travers un récit, et ce récit est important.
Je ne sais pas comment j'ai fini par créer cet objet incongru, en fait. Oui, en effet, entre la fiction et le documentaire, à ma façon. Je pense que je voulais intégrer des vraies données scientifiques, même dans le texte, et le comprendre d'une façon plus simple, etc. Mais je voulais que ça vienne de la personne vraiment directement, donc ces femmes-là qui expriment elles-mêmes leurs recherches et leurs propos avec leur style, leur façon de parler, etc. Et ça, je me suis dit, je vais tenter de l'intégrer dans cette fiction, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que disent mes éditeurs aussi de ces scènes-là, où des fois il y a beaucoup de texte en effet, alors que des scènes d'avant, des fois il y avait zéro texte, ça pouvait être expérimental et tout. Et ils m'ont dit non, ça fonctionne bien, continue comme ça, donc j'ai continué. Et il n'y a pas souvent de gens qui ont bloqué sur ces passages-là très scientifiques. Ils ont trouvé ça fluide et tout, donc
mais complètement. Voilà. Et justement, je pense que c'est d'autant plus marquant que c'est dans un récit avec donc ce personnage de Zoa qu'on suit. Et je crois que c'était une des choses importantes au tout départ du projet. C'était aussi au-delà de ces données scientifiques que vous aviez envie de partager avec le plus grand nombre. Il y avait aussi l'idée de voir l'évolution d'un scientifique et comment est-ce que le système de pensée peut évoluer.
Oui, donc cette Zoa qui part donc dans le parc d'Écotopia, à la base, est très cartésienne et très formatée d'une certaine façon par ses études scientifiques. Et ne se pose pas forcément trop de questions là-dessus. Enfin, c'est une évidence quoi, de penser comme ça, d'être très rationnel, les fonctionnements sont comme ça, on les étudie de loin, il ne faut pas toucher d'ailleurs la nature. Et peu à peu, elle va comprendre qu'être au contact direct, le plus direct possible avec son modèle de recherche, c'est là où va se créer en fait, la connaissance. De différentes façons, selon les femmes scientifiques qu'elle va rencontrer, qui va lui parler de leurs propres recherches. Et ça va complètement ouvrir son champ de vision, et ça va lui créer une sorte d'appel d'air. Au début, elle sera interloquée, et puis peu à peu, elle va comprendre, et elle-même va expérimenter avec son corps, avec ce contact direct physique, en fait, la nature. Et tout va prendre sens et son évolution. Donc c'est un peu un parcours initiatique de cette personne. Très, qui pensait être sûre de ce qu'elle savait, quoi, qui va changer.
Et vous avez commencé à l'évoquer, justement, le fonctionnement de ce parc. Il est régi par des règles très strictes. Il y a des drones qui observent tout ce qui s'y passe, non-stop. Ils repèrent et zigouillent les espèces invasives, tout individu non autorisé. Il s'agit toujours de protéger la nature. Et effectivement, Zoa, au début, elle croit en ce système, elle y croit profondément et elle le dit, je la cite, elle le dit à l'une de ces femmes scientifiques dont on va parler dans quelques instants, elle dit « on n'a jamais été aussi proche des animaux qu'avec les drones et sans altérer leur comportement ». Sauf que ce dont on s'aperçoit dans cette histoire, c'est que on est dans un système où le fait de séparer radicalement la nature de l'humain n'est pas une solution. Et le parc, dans votre récit, dépérit. Et donc, finalement, on se rend compte à quel point ce système d'imaginer quelqu'un, l'humain, supérieur à la nature et qui devrait être son protecteur, c'est un système qui ne fonctionne pas.
Ça vient, cette idée de ma propre culpabilité. Quand je traverse un lieu très naturel, par exemple d'écraser juste des mousses sur le petit chemin mignon de la forêt, rien que ça, moi, ça me rendait malade. Et je me suis dit, pourquoi je me sens aussi mal et pourquoi j'ai l'impression d'être mauvaise ? Parce qu'on nous culpabilise beaucoup en tant que destructeurs de la nature. Et pourquoi on pourrait être que soit protecteur, soit destructeur et ce serait pas un peu plus compliqué que ça, finalement. Finalement, on reste des animaux qui viennent d'un environnement naturel et qui savaient, en tout cas, s'y déplacer et l'utiliser sans tout détruire avant. Et c'est venu de ce questionnement-là. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut pas, en fait, se mettre en dehors... Enfin, se remettre à notre place dans la nature, tout en la respectant, tout en ayant un vrai lien, à recréer un lien, en fait, avec toute... nos connaissances actuelles, tout en revenant aussi peut-être par un système plus antique de relations symbiotiques avec lui. Et je me suis dit, comment le représenter dans une BD, en fait, tout ce questionnement. Et tout en écrivant, en fait, même moi-même, j'évoluais là-dessus. Et donc, ce parc enfermé qui est ultra protégé, donc c'était la solution miracle un peu extrême.
Oui, quand les gens veulent avoir l'expérience de la nature, on le voit, il y a une pub à un moment dans la rue, c'est un casque VR pour pouvoir faire l'expérience de la nature.
S'ils veulent faire une balade en forêt, ils peuvent que comme ça. Et pour moi, au début, quand je m'imaginais quelle solution serait la mieux pour enfin que tout s'arrête, là, la destruction de la planète, ça serait d'empêcher totalement l'humain d'y rentrer, en fait, de toute façon. Et là, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, en fait. C'est quoi cette idée ? Alors qu'on a besoin, au contraire, de rentrer en contact. Mais comment faire ? Donc, c'était vraiment la question de base. Et après coup, j'ai découvert qu'il y avait vraiment des exemples à travers la planète de fermeture de forêts, de les enclore, en fait, et de sortir de là les populations qui vivaient des fois depuis des siècles. Et ça, je ne savais pas, en fait. Quand j'ai commencé à écrire sur un parc fermé, tout ça, je ne connaissais pas. Donc, je suis rentrée dans le sujet peu à peu. Et j'ai découvert que c'est une solution, en fait, capitaliste à la protection de la nature pour continuer encore à capter du carbone, pour pouvoir continuer le système tel qu'il est, le business as usual. Et donc, ça a été naturel de placer ce parc Écotopia au centre de l'histoire pour parler de ce lien.
Et d'ailleurs, on le voit bien dans votre bande dessinée, quand le parc dépérit, il y a un des chefs qui dit « il faut trouver une solution » et Tatal qui finance le parc est prêt à mettre des millions, c'est budget illimité parce qu'une entreprise a tout intérêt à ce que le parc ne dépérisse pas. Donc c'est bien qu'on est effectivement dans un système où il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et elle remet tout ça en cause, Zoa, au fur et à mesure, tout ce système est quelque chose qui va dans le même ordre d'idées. Finalement, c'est aussi cette idée, et on y reviendra, que
il faut, pour réussir, dominer, qu'on est seul contre tous, contre toutes. Et Zoa, je reviens là-dessus parce qu'on parlait un peu de qui elle était. Zoa, c'est une étudiante qui, au début de la bande dessinée, est extrêmement ambitieuse. Et ce n'est pas forcément un gros mot, l'ambition, mais son ambition passe par le fait de faire des choses pas forcément très sympas envers ses amis et de se dire, fondamentalement, on est seul et si on veut réussir, c'est qu'en écrasant quelque part les autres. Et tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que c'est la domination de l'homme sur la nature. On va aussi parler évidemment de Zoa en tant que femme au sein d'une communauté scientifique. Ce que vous montrez très bien, je trouve, avec cette bande dessinée, encore une fois, c'est comment tout ça est lié et comment est-ce qu'on se retrouve dans un schéma de pensée que parfois on ne réinterroge pas, alors que si on pose les choses à plat, tout paraît aberrant.
C'est, elle est dans la logique de manger ou être mangée, donc elle ne veut pas être mangée, donc elle s'attaque aux autres ou elle les laisse derrière elle. Et elle a bien appris sa leçon de notre système actuel, quoi, individualiste et capitaliste. Et en fait, toutes les cartes sont rebattues une fois dans le parc, en fait. Tout devient. Enfin, ton monde. Est mise à l'envers et elle se rend compte qu'elle pensait être féministe par exemple et que ça n'est pas du tout le cas, ou alors un féministe très de bon ton qui va pas révolutionner le système global et qui va juste marcher dedans dans ce système de domination. C'est juste que les femmes vont dans ce système là être plus dominantes, et dominer qui? D'autres personnes, par exemple des femmes racisées, ou voilà. Ça va être juste un peu bouger les choses, mais pas tout renverser. En fait, la domination serait toujours là si on continue avec ce type de féminisme. Et donc, voilà.
Et donc, elle va évoluer, notamment au contact, et on y arrive, de 5 femmes scientifiques. On peut les citer, puisqu'elles sont 5. Je vais vous laisser peut-être donner leur nom pour que je n'écorche pas leur nom de famille.
Voilà. Alors, il y a Jen Goodall, qui est la plus connue, qui a travaillé 50 ans avec les chimpanzés en Tanzanie, donc vraiment dans la jungle, en contact direct des animaux, sur leur comportement, sur leur culture, sur plein de choses. Celle qui a découvert, par exemple, qu'ils créaient des outils, des armes, et qu'ils... Enfin, il y a plein d'autres choses qu'elle a découvertes. Leurs relations sociales, politiques, même entre eux, leurs sentiments, et bon... Elle parle beaucoup avec anthropomorphisme. Pour certains, c'est choquant, et tout ça, dans le monde scientifique. Mais ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est le fait qu'elle s'en fiche de ça, qu'elle soit quand même vachement féministe depuis toujours, et très... je sais pas comment dire, très libre, en fait, ça lui passe au-dessus de la tête. Du moment qu'elle peut continuer ses recherches, qu'on parle de ses jambes et de son bronzage au retour en Angleterre en 1960, bon, écoute, ça fait juste un peu de pub, elle s'en fiche, quoi. Du moment qu'elle peut vraiment continuer à avancer. Et bah, je l'adore pour ça. Et puis là, elle est à travers le monde, là, en ce moment, depuis des décennies, d'ailleurs, pour qu'on protège les forêts, en fait, au nom des chimpanzés, mais en fait de toutes les autres espèces. C'est un peu une espèce parapluie, quoi, on va dire, les chimpanzés, mais pour protéger les forêts tropicales.
Et Temple. Voilà.
Ensuite, il y a Temple Grandin, qui est une Américaine qui travaille avec les animaux d'élevage, et surtout les vaches et les chevaux. Et elle est autiste, et elle est sortie d'un autisme très, très poussé dans son enfance, grâce à sa maman, en restant dans le système scolaire normal, en s'accrochant et tout. Et elle a fini ingénieure et chercheuse en comportement animal, parce que elle est attirée par les bêtes. Là, dans sa campagne, à l'époque, quand elle était enfant, je crois, elle voyait beaucoup de vaches dans les élevages géants, et elle arrivait à les comprendre très vite, en fait. Alors tout le monde était là, mais je ne comprends pas pourquoi telle bête panique et tout. Elle comprenait tout de suite. Et donc sa théorie, depuis le début, c'était que les autistes peuvent comprendre les animaux parce qu'ils ont une façon de voir le monde très proche des animaux. Alors ça peut être choquant comme ça quand on dit ça, mais en gros, le cortex préfrontal, et ça a été vérifié après avec des biologiste, et connecté d'une façon similaire que les animaux, donc chez les autistes, voilà. Et en fait, ils capturent beaucoup d'informations, et ils le trient pas de la même façon que les gens plus valides. Et enfin, c'est même pas un handicap d'ailleurs, c'est pas vu comme un handicap, c'est juste une autre façon de voir le monde. Et donc ça peut amener beaucoup d'angoisse d'avoir trop d'informations qui arrivent comme ça, de devoir réagir. En plus, on demande aux autistes de réagir de telle façon, mais pour eux, pendant une crise, c'est impossible, voilà. Donc ça crée beaucoup d'angoisse. Et les bêtes aussi peuvent être très angoissées, surtout dans des élevages, bien sûr. Et tout. Et donc maintenant, elle améliore les conditions de vie et de mort de la moitié des élevages et abattoirs des États-Unis. Donc dans la moitié des... Donc c'est impressionnant. Et là, je la fais courir à quatre pattes dans la BD. Parce que j'aimais bien... Il y avait une anecdote dans son livre où elle raconte que souvent, elle se met à quatre pattes pour comprendre en fait l'angle de vue de la bête. Pourquoi à ce moment-là du parcours, elle flippe, voilà. Donc elle se met à quatre pattes, elle regarde. Bon, il y a les gars de l'abattoir ou de l'élevage qui sont morts de rire. Et elle fait non, il y a ça, ça. Et après, ils sont impressionnés, genre ah bon et tout. Et ça marche à chaque fois. C'est la solution miracle pour eux. Ils sont libérés d'un poids et tout. Et... Donc, mais au début, c'est toujours risible. Donc je voulais absolument la mettre à quatre pattes qui court avec les vaches. Donc j'ai extrapolé complètement ça. Sinon, il y a qui d'autre Lynn. Ensuite, Lynn Margulis, qui est une microbiologiste qui a découvert, prouvé l'endosymbiose. Donc c'est, son sujet, c'est la symbiose. C'est donc les bénéfices mutuels que deux espèces trouvent en interagissant et en coopérant. Et qui crée donc pour chacune plus et une nouvelle fonction ensemble. Par exemple, le lichen est fait d'une algue et d'un champignon, et les deux peuvent survivre sur Terre alors qu'ils ne pourraient pas, dans telles conditions de sécheresse, survivre comme ça. C'est très impressionnant, les symbioses, et en fait, elles sont partout sur Terre. Lynn Margulis a prouvé que c'est à l'intérieur même de toutes les cellules du vivant que les organes de la cellule sont faits, par exemple, de bactéries, qui sont rentrés en symbiose avec la cellule à la base et qui ont permis le développement de la plupart des espèces sur Terre. Donc c'est un passage très important pour moi. Ensuite, il y a Barbara McClintock, qui, elle, était en interaction. Donc tout ça, c'est des personnes qui étaient en interaction très proche avec les animaux, les modèles observés, les plantes et tout. Et Barbara, en fait, c'était une généticienne des années 50 qui a découvert les transposons. C'est de l'ADN mobile dans le génome. Et sauf qu'elle, elle rentrait dans une sorte de transe méditative, transcendantale, enfin, je pourrais pas décrire, mais un état très spécial qu'elle se créait devant son microscope, et elle pouvait rentrer dans la cellule, enfin, elle en témoigne comme ça, et parcourir la cellule et voir tout qui se passait devant elle, l'ADN, les organites, enfin, et c'est assez incroyable de lire son témoignage. Et j'aimais bien son côté très excentrique, et elle a fait de grandes découvertes qui aussi ont rebattu les cartes de la science. Parce qu'à l'époque, l'ADN ne pouvait pas bouger, c'était gravé dans la roche. Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là? En plus, elle est un peu faux-folle quand elle parle, donc elle était un peu... elle a été reconnue finalement, mais elle était un peu dans son coin pendant des décennies, sur un campus. C'était un peu la folle du campus, et j'ai voulu la mettre en avant. Et elle avait même abandonné à un moment les sciences. Et elle a fini par avoir le prix Nobel de médecine en 83, je crois. Mais en son nom propre, c'est très rare pour une femme. C'est la seule. Oui, c'est la seule. J'avais vérifié après. Et sinon, la dernière, c'est Monica Gagliano, qui travaille sur le comportement des plantes et qui prouve des choses comme le fait que les plantes utilisent le son et peuvent émettre des cris. Des clics qui servent de communication, vraiment. C'est pas juste un clic par hasard parce que la branche a bougé. C'est vraiment des sons audibles à l'oreille humaine. C'est très intéressant, son travail. Et elle aussi, actuellement, elle rebat un peu les cartes de la différence entre les animaux et les plantes et tout ça. Donc, c'est la dernière de l'histoire.
On l'a entendu dans votre façon de parler rapidement de ces femmes. Leur point commun, c'est leur originalité dans leur façon de pratiquer la science. Est-ce que ça a été compliqué de faire votre casting, de vous limiter à 5 scientifiques? Comment est-ce que vous en êtes arrivé finalement à ces 5 femmes? Est-ce qu'il a fallu faire le deuil de certaines scientifiques que vous auriez aimé intégrer, mais vous deviez déjà faire plutôt 160 pages, je crois, au début, et finalement, vous êtes autour de 300. Donc, j'imagine aussi qu'il y a des limites matérielles, enfin, en tout cas, de se dire faut faire un récit qui tienne de bout en bout. Donc, il ne s'agit pas de faire un catalogue des scientifiques, parce qu'il y en aurait énormément à mettre en avant. Mais comment est-ce que vous en êtes arrivé, finalement, à ces cinq-là?
J'ai eu du mal à choisir. Il y en a tellement, mais j'ai gardé les plus... originales, les plus excentriques et celles dont j'avais le plus de témoignages aussi directs. Par contre, oui, il y en a beaucoup d'anglo-saxonnes. Il y en a qu'une qui est actuelle, c'est Monica Gagliano. Après, c'était dur. Je me suis arrêtée sur celle-là parce que je ne pouvais pas trop en rajouter aussi. Et qu'elles allaient bien ensemble pour les sujets que je voulais aborder. Et les autres, ça ne correspondait pas assez à mon propos aussi. Mais j'aurais pu en faire beaucoup d'autres, c'est clair. Oui. C'était dur.
Et à travers ces femmes, et vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, vous vous intéressez aussi précisément à ce que c'est qu'être une femme. Et sur ce point-là aussi, Zoa évolue beaucoup. Au début de la bande dessinée, elle rejette toutes les qualités qu'on dit féminines. Elle s'insurge quand Jane Goodall lui dit que les femmes sont plus empathiques, discrètes, patientes, instinctives. Elle lui répond, et assez fièrement, elle lui dit « Moi, je suis maladroite, impatiente, bruyante et j'ai zéro intuition. » Elle veut absolument pas être étiquetée « science de femme ». Et Jane, elle lui rétorque à ce moment-là qu'elle devrait au contraire être fière d'être une femme, que c'est son truc en plus. Et donc, finalement, c'est ce qu'elle découvre aussi dans Spark, que ces femmes lui montrent à travers leur parcours et à travers leur découverte et la façon dont elles se sont battues aussi pour faire reconnaître leur découverte, qu'on peut aussi s'affirmer en tant que femme et que ce n'est pas moins bien que de se dire non, je suis un scientifique.
L'exemple de Jane Goodall, c'est très clairement... Quand j'ai su que Louis Leakey, donc un anthropologue, l'avait envoyée sur le terrain, justement pour ces raisons-là, que c'était une femme, une jeune femme qui n'avait pas de formation scientifique ou très peu, mais juste passionnée d'animaux depuis l'enfance et qui s'y connaissait quand même, mais autodidactement, on va dire, que quand j'ai su que c'était pour ses valeurs... Ces aspects en fait de discrétion, de persévérance, de patience qu'il l'avait choisi, me suis dit mais c'est exact, c'est là où tout s'est connecté en fait. Je me suis dit mais les autres femmes dont je veux parler, c'est peut-être aussi pour ça. C'est pas juste qu'elles sont originales et que c'est des femmes incroyables et tout. Et donc ça a commencé par Jane Goodall où je me suis dit mais ok d'accord, les femmes seraient comme ça et que ça serait pour ça que dans les sciences elles apporteraient une façon nouvelle en fait d'observer la nature. Mais en même temps ça m'énerve de devoir dire, ça m'énervait moi-même de dire parce que c'est des femmes elles sont comme ci comme ça. Et j'ai réfléchi longuement, je disais mais moi je suis pas essentialiste, je me dis pas les femmes sont comme ça dans leur nature, voilà. Et ça m'énervait depuis l'adolescence comme Zoa. Qu'on me rabaisse toujours à le côté féminin. Ah oui, les femmes donnent naissance et tout. Enfin, tout ce côté-là, je dis oh là, on se calme. Moi, j'ai pas forcément envie de ça. Moi, je fais mal la cuisine. Moi, je sais pas m'occuper des autres. Et voilà, tout de suite, genre, pourquoi je serais forcément comme ça? Parce que je suis une femme, ça m'énervait. Donc j'ai retranscrit ce côté-là de mon adolescence dans le livre. Puis après, je me dis que c'est pas dans les sens, c'est peut-être et dans les sens et dans la culture, ou que dans la culture. Et en fait, ce débat entre nature-culture, il commence à arriver à sa fin, en fait. Parce que tout est mélangé, en fait. Même dans la nature, on voit que la culture peut rentrer dans... À force de faire un acte culturel, ça peut rentrer dans l'épigénétique, donc dans les gènes. Et les gènes peuvent influencer la culture. Enfin, y a des liens c'est tellement entremêlé qu'on ne peut plus trop se poser ce genre de questions, finalement. Et, après, c'est bien de se dire, là, c'est clairement quelque chose de culturel qui fait que les femmes sont exploitées. C'est très bien de le faire. Il faut. Mais il ne faut pas se prendre la tête outre mesure. Moi, je pense que tout le monde devrait être plus empathique. Tout le monde devrait, homme ou femme, donner plus de soins à l'autre, etc. Mais si les femmes, là, à cette époque-là, sont plus empathiques, plus dans le soin, et ben, si elles font des découvertes plus impressionnantes grâce à ça, par leur patience, leur détermination et tout, bah, autant l'utiliser, le mettre en avant et le valoriser au lieu de dire « Oh, c'est un truc féminin ». Donc ça a moins de valeur. Là, c'est justement donner de la valeur à ces qualités-là et montrer que la science faite par des femmes peut amener quelque chose de complètement nouveau et est en train d'amener beaucoup de choses nouvelles parce qu'il y a quand même plus de femmes scientifiques qu'avant. C'est pas encore ça, mais ça avance.
Zoa, elle est amenée à reconsidérer ça et à se dire qu'elle n'a pas forcément besoin de se construire en opposition à ce qu'on dit être des qualités féminines. Est-ce qu'elle, là où elle évolue aussi, et vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, c'est dans son rapport à son propre corps. Dans ce parc, à un moment, elle chute au tout début et elle a peur d'un seul coup que son corps soit abîmée, d'un seul coup elle se rend compte que son corps est là, et ça commence ce changement de regard sur son corps par une déclaration d'amour finalement qu'elle fait à son corps. Elle lui dit: mon cher corps, si fragile, je t'ai tellement maltraitée, oubliée, détestée, alors que tu es tout ce que j'ai. Et ensuite elle se fait la réflexion que c'est la première fois, quand elle se retrouve nue au milieu de la nature, qu'elle supporte la vue de son corps sans en être dégoûtée. Et c'est là où tout est aussi lié, c'est-à-dire que c'est son rapport à son corps, mais parce que ce qu'elle ne supportait pas non plus, c'est le regard des autres sur son corps, et c'est le regard des autres qui fait qu'elle a été amenée aussi à se retrouver déconnectée quelque part de son corps. Et ça aussi, c'est une immense découverte pour elle, et qui est très rapide pour le coup. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce contact avec la nature qu'elle n'a jamais eu, alors qu'elle a une vingtaine d'années, d'un seul coup, c'est une révélation.
Oui, ça vient d'une expérience très personnelle. Oui. Depuis que je suis toute jeune, d'être dans la nature, ça change complètement ma perception de ma propre personne, de mon corps, et je me sens enfin libérée du regard des autres, en effet, et je voulais retranscrire ça après. Je me suis dit que c'était très important de commencer par ça même, parce que de se réapproprier son corps et de se sentir dedans, à l'intérieur, parce qu'on est très, très dans les idées, dans les concepts et tout, surtout en science, c'est le plus important en fait, parce que le corps, c'est ce qui nous connecte au reste du monde. Donc c'est comme une connectique qu'on branche comme ça au monde d'un coup, si on peut, enfin je pense qu'on peut pas être on peut pas connaître le monde si on n'a pas une bonne connaissance de son corps. Maintenant j'en suis sûre, enfin après un long parcours là-dessus, dont du yoga dernièrement, des choses comme ça, je me rends compte de ça, et je voulais me retranscrire. Après c'est des mots d'excuse à son corps, ça m'est vraiment arrivé. Ça m'est arrivé littéralement, pas de cette façon, pas après avoir chuté d'une falaise, mais dans d'autres conditions, et grâce à des champignons magiques d'ailleurs, qui m'ont fait prendre conscience de mon corps, entre autres. Voilà.
Mais justement, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là ? Le fait d'être dans la nature, pourquoi est-ce que c'est ce contact-là qui, d'un seul coup... décoince tout ça pour ce personnage, en tout cas. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est justement le fait de, d'un seul coup, plus être entouré des autres. D'ailleurs, il y a une scène au tout début de la bande dessinée où elle se fait harceler dans la rue, et elle dit c'est tellement... il se croit en 2022, ce type-là. On sent quand même qu'il y a une pression dans la société. Et c'est d'un seul coup quelque chose de presque inconscient, et c'est ça qui est très beau. C'est comment est-ce que la nature, qu'on entende ou pas ses cris, qu'on comprenne ou pas les animaux, il y a quelque chose qui se joue quand on se retrouve entouré de plantes, d'animaux, des éléments naturels.
Bah oui, moi je trouvais ça dingue d'étudier à la fac l'écologie, les processus naturels, et de pas aller les voir de mes yeux. Et c'est en effet en allant sur le terrain que tout devient plus réel et compréhensible, même sans mots. Enfin, on commence à plus sentir les choses, plus on reste en contact avec les plantes, plus on voit leur état évoluer, plus subtilement. Moi maintenant j'ai un jardin depuis des années, je vois chaque plante sur mon passage, je les reconnais, je vois quand elles vont pas bien à la seconde presque maintenant. je peux sentir, c'est juste à force de contact, c'est tout, y a rien de, c'est pas magique ou quoi, c'est juste des habitudes qu'on a plus dans notre monde urbain et tout. Et quand je faisais mes études, je faisais des stages tous les étés, mais ça suffisait absolument pas. Je sentais qu'il manquait quelque chose de vital, quoi. Que c'était pas que le monde des idées ou un peu de terrain qui allait changer ce lien. Et j'ai toujours couru après ça, rêvé d'avoir un jardin, et je l'ai enfin fait. Donc, Voilà.
Et j'ouvre une parenthèse, mais on évoquait il y a quelques instants les femmes scientifiques que rencontre Zoa. On parlait tout à l'heure du fait que vous aviez toujours créé, toujours dessiné. Est-ce qu'il y a des femmes, notamment autrices de bandes dessinées, qui ont aussi pu vous donner envie de faire de la bande dessinée, qui vous ont aussi fait vous dire ah bah oui, c'est quelque chose que j'ai envie de pratiquer, c'est une direction dans laquelle je peux aller?
Oui, bah oui, dernièrement, je me suis lancée dans la BD, on va dire, il y a 4 ans. Et avant ça, ça faisait peut-être 10 ans que je suivais pas mal la BD alternative, plutôt. Et je voyais une évolution donc vers un chemin qui me plaisait, c'est-à-dire une libération totale du dessin, des formats aussi, dans la vulgarisation scientifique, des choses apparaître comme les livres de Liv Strömquist, qui est suédoise et qui vulgarise sur essentiellement les relations sociales, hommes-femmes beaucoup, sur le capitalisme aussi, plein de sujets comme ça. Là, dernièrement, sur l'astrologie, mais je ne l'ai pas lu. Et elle prenait toute liberté de marier le texte, le dessin, de dessiner mal, entre guillemets, et d'être drôle et de toucher à des idées très complexes. Et aussi à des choses de la culture populaire, des stars, des choses comme ça, et de marier tout ça ensemble d'une façon très talentueuse, quoi. Je me dis, ah, ça donne envie de parler de mes sujets à ma façon aussi. Et c'est un peu des ovnis que je pensais pas être possible, en fait. Ce que j'avais en tête à chaque fois, c'était un mix, toujours un peu fictionné, même pas docu-fiction, quoi, de la fiction et du documentaire mélangé, toujours ces idées-là qui reviennent. Même pour mon film sur le frelon, c'était ça déjà. Et là, je me suis dit, bah, c'est le moment, je crois que c'est possible, en fait, ce que j'ai en tête. Et après, il y a d'autres autrices comme Claire Brault qui m'a beaucoup marquée, parce qu'elle, elle a commencé très tard aussi la BD, vers 33 ans, je crois. Et j'avais entendu une interview où elle racontait qu'avant, elle était comédienne ou dans le théâtre, je ne sais plus trop. Puis elle a commencé à gribouiller un truc, elle avait toujours dessiné. Puis un jour, elle s'est dit, je vais faire une BD pour plaire, pour gagner le cœur de tel homme. Et ça va être la BD de l'année, ça va être un best-seller, il sera impressionné et on se mariera. Elle s'est fait tout un truc romantique en tête. Et elle était là avec son énorme projet et c'était très très dur à faire et tout. Et à côté, pour se lâcher, elle faisait une petite BD, donc c'est Mambo, je crois qu'elle avait fait. Donc c'était 100 cases avec beaucoup de l'encre très très vif et plein d'énergie et tout. Et finalement, c'est Mambo qu'elle a sorti, qui l'a fait connaître. Ça m'a fait trop rire.
Et je me suis dit, est-ce que le garçon a été séduit quand même?
Ça, je ne sais pas.
On va aller chercher.
Je n'ai toujours pas rencontré, j'aimerais bien.
Mais justement, vous parliez de cette liberté, le fait de voir ces femmes, notamment, exploser le cadre habituel de la bande dessinée. Comment est-ce que vous avez trouvé graphiquement l'univers de votre bande dessinée? Est-ce que ça a été immédiat, ces couleurs, ces outils? Est-ce que vous avez aussi, dès le départ, réussi à vous accorder cette liberté? J'en reparle, mais il y a des pleines pages où c'est des explosions de couleurs, où vous retranscrivez aussi des choses qui sont de l'ordre de la sensation. Comment est-ce que vous avez trouvé, une fois que vous aviez l'histoire, une fois que vous aviez vos femmes scientifiques, comment est-ce que vous avez imaginé visuellement ce projet?
C'était un peu dur. Moi, j'ai des références, bien sûr, graphiques, mais je n'ai pas l'impression que c'est un lien direct avec ces références-là. Après, c'est plutôt les décors naturels que je connais qui je voulais absolument retranscrire. Mais pas forcément de façon réaliste, mais par exemple les bords de Charente où je vis, c'était très important parce que j'ai passé beaucoup d'heures à faire du canoë kayak dessus, sur les petits bras de Charente. Et c'est pour ça que c'est pas une forêt primaire impressionnante, ça ressemble plus à la Charente, je l'avoue. Il y a même des orchidées, pas des orchidées, mais des iris d'eau cachées moi. Voilà. Et en fait, c'est un peu comme le douanier Rousseau qui s'imagine une jungle, quoi, un peu. Enfin, je me suis dit, je m'en fiche que ça ressemble à une jungle, je mets un peu ce que je veux dedans. Et plutôt une sensation de tel type de forêt sans aller dans le réalisme. Après, les couleurs, le crayon, moi, au début, je voulais peut-être faire de l'encre, je savais pas trop. Et finalement, le crayon, j'étais vachement plus libre et je pouvais aussi reprendre un peu du coup à la gomme. Et je me suis dit, mais en fait, mon trait est vachement plus vif comme ça, je vais le garder comme ça, vu que maintenant on peut, ouais. Gardons-le comme ça. Et la couleur, le pastel, bah, alors j'avais pas touché au pastel depuis 20 ans, je pense. Et j'ai trouvé une boîte de pastel à Pantin dans une benne magique qui était devant mon atelier. Donc des très bons pastels d'une très bonne marque. Il y avait exactement mes couleurs. C'était mes couleurs à moi depuis quelques années. C'est quand même un deuxième signe. C'est pas possible. Donc j'ai commencé à m'y remettre et finalement j'ai pris goût d'être au doigt comme ça, comme quand j'étais jeune, voire enfant. Et voilà. Mais j'aurais jamais pensé au pastel si j'avais réfléchi à une technique et tout. C'est vraiment par opportunisme, par hasard.
Et je le disais tout à l'heure, au départ, votre projet, vous pensiez qu'il ferait aux alentours de 160 pages. Finalement, il en fait beaucoup plus. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à augmenter la pagination? C'était justement pour faire pleinement vivre ce décor qu'il existe? C'était parce que finalement, les explications scientifiques avaient besoin d'être développées tout en étant, et c'est le cas, extrêmement digeste, toujours très fluide et j'ai eu le sentiment de tout comprendre, ce qui est quand même assez fort, merci.
Je suis contente d'entendre ça.
Donc, qu'est-ce qui a fait que le projet il a évolué finalement?
En effet, c'est ça, c'est beaucoup pour pouvoir m'exprimer sur des concepts scientifiques un peu complexes. Il faut prendre le temps d'amener les choses pour la compréhension. Il y avait des scènes plus intimes ou expérimentales qui prennent du temps aussi à poser. Et puis moi, c'était ma première BD, donc je ne me rendais pas du tout compte que ça allait dépasser un petit peu. Et aussi, le format est assez compact, parce que je voulais quelque chose d'assez petit, qui soit accessible, enfin, au maximum accessible. Vu que je voulais faire de la couleur, que je savais qu'il y avait beaucoup de planches, forcément, je voulais un format compact et assez carré, parce que j'avais vu plusieurs livres comme ça, presque carrés. Ça me fascinait, ce format. Et du coup, bah, y a des fois qu'une case ou trois cases, donc ça va vite, en fait, le nombre de pages. J'avais peur, à un moment, j'étais, il y en a 200, il me reste beaucoup de planches, est-ce que ça vous va? Je demandais à mon éditrice, oui, comme tu veux, il n'y a pas de problème, exprime-toi. Bon, c'est vrai qu'au bout de 400 pages, ça devient un peu compliqué, on va peut-être faire en deux tomes. J'étais, oula, non, alors je vais faire 300 pages, je ne vais pas faire plusieurs livres. C'est vraiment un objet, quoi. Donc.
Justement, vous parliez de votre éditrice. Cette bande dessinée, elle a été publiée dans la collection Sorcières des éditions Cambourakis. Et votre éditrice, c'est la première personne, je crois, à qui vous avez envoyé ce projet. De quelle façon est-ce que cette collection a nourri cette bande dessinée? Et pourquoi est-ce que, pour vous, il était évident que c'était une bande dessinée qui pouvait parfaitement s'inscrire dans cette collection Sorcières?
En fait, cette collection avait beaucoup nourri le projet, tout simplement. Je me suis rendu compte après coup qu'il y avait énormément de livres qui avaient une influence sur le scénario. J'avais découvert rien que le terme écoféminisme peu de temps avant, même en pleine écriture. Et je crois que c'était un article de journal. Et je disais, c'est quoi ce néologisme encore? Ça m'attire, mais est-ce que c'est encore un truc nouveau et tout? Et non, c'était assez ancien et c'est une idée, un concept créé par Françoise Daubonne, qui en fait, Françoise Daubonne, c'était une penseuse militante des années 60-70 en France. Et elle a compris qu'en fait, les problèmes écologiques et les problèmes de domination et d'exploitation des femmes étaient complètement reliés par ce système de pensée, en fait, de hiérarchisation, humain-nature, blanc sur noir, homme sur femme, animaux sur plantes. Enfin, on hiérarchise toujours de façon binaire les choses dans notre société occidentale contemporaine. Et elle a fait le lien, et là, ça fait paf. Moi aussi, j'étais toujours entre les deux luttes, l'écologie, le féminisme. Je ne savais pas lequel choisir, mettre le plus d'énergie dans lequel. C'était des faunes très différentes de gens. Enfin, je ne voyais pas le lien, forcément. Et tout. Là, ça a fait vraiment tilt. Il fallait que ça soit intégré à mon histoire. Et donc, j'ai lu de plus en plus de livres de cette collection, parce que c'est une collection qui est apparue en 2015, je crois, et qui se concentre beaucoup là-dessus, et sur d'autres choses aussi, d'autres sujets politiques, mais beaucoup sur l'écoféminisme. Et donc j'ai lu, par exemple, Reclaim, c'est un recueil de textes écoféministes, plutôt américain, mais il y a de tout. Il y a les textes de Starhawk aussi qui sont chez Cambourakis dans cette collection, qui est une sorcière politique qui montre que la magie peut être politique et que c'est pas juste quelque chose de folklorique. Et ça aussi, ça va complètement retourner le cerveau. Enfin, j'ai découvert des concepts incroyables. Et donc, c'est la première personne, Isabelle Cambourakis, qui j'ai envoyée, mais en me disant, il n'y a que des essais dans cette collection, j'y crois pas trop, mais si je ne l'envoie pas elle en premier, au moins pour avoir un échange, quelque chose. Et elle a fait, non, mais c'est exactement les concepts qu'on... C'est exactement ce qu'on veut montrer. Et en plus, ça me plaît beaucoup, le graphisme et tout, et je ne connais rien en BD, mais je veux qu'on le fasse ensemble. Et j'étais, mais c'était le plus beau jour de ma vie, à ce moment-là, en tout cas. Et on s'est rencontrés assez vite. Et c'était une évidence, ouais, c'était...
Et justement, on reçoit beaucoup dans ces jeudis de la BD des autrices ou des auteurs qui publient des premières ou des deuxièmes bandes dessinées. Est-ce que vous pouvez nous dire juste un mot rapide de la façon dont vous avez présenté votre projet ? Est-ce que déjà vous évoquiez le crayon, les pastels ? Est-ce qu'il y avait déjà des planches ? Est-ce que vous aviez déjà l'univers très clairement en tête ? Est-ce que vous avez dit maintenant il faut que je l'envoie plutôt parce que justement ça va se nourrir des échanges que je vais pouvoir avoir avec mon éditrice? Quand est-ce que vous avez su que le projet était suffisamment mûr pour être envoyé en fait et pour être montré?
En fait, il y avait très peu de planches, je crois qu'il y en avait 6 et c'était au crayon à papier pour le trait toujours, mais crayon de couleur pour la couleur et ça a complètement changé après. Je crois qu'il n'y avait même pas de cases, c'était très libre. Et en fait, je voulais l'envoyer à ce moment-là parce que j'avais besoin d'un coup de boost, en fait. Je ne me voyais pas faire 10-15 planches un peu dans le vent. Alors que, enfin, je sais pas, je voulais quelque chose qui me pousse et avoir au moins un éditeur derrière moi pour aller plus loin. Parce que j'avais passé déjà beaucoup de temps sur le développement et l'écriture du scénario. Donc il y avait quand même un synopsis développé. Je crois que c'était une dizaine de pages. Présentation des personnages, enfin des choses comme ça, les concepts, beaucoup sur les concepts et tout. Et là, j'ai fait, si j'ai pas ensuite quelqu'un qui m'aide un peu là, à avancer, j'arriverai pas, quoi. Et là, ça m'a vraiment... ça et la résidence à la maison des auteurs, ça m'a vraiment lancé sur cette BD. Ça m'a donné confiance et aussi du crédit dans mon travail. Je me suis dit, ça a de la valeur, il faut que je continue. C'est bon, c'est parti, quoi.
La Maison des Auteurs, c'est donc une résidence à Angoulême. Qu'est-ce que le fait de partager des locaux avec d'autres artistes vous a apporté ? C'est justement quand il y a des petits coups de mou, le fait de pouvoir montrer des choses, de pouvoir en discuter, le fait de, quand on a un doute, pouvoir montrer des choses à d'autres personnes qui vont pouvoir encourager dans une direction ou bien peut-être parfois même régler un problème qui tient à presque rien dans une case, mais qu'on ne voit plus parce qu'on a le nez dessus. Comment est-ce que vous diriez que cette résidence, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, vous, à titre personnel et donc naturellement au projet ?
Oui, alors il y avait ce côté un peu professionnel. En effet, quand on bloquait, on pouvait aller se parler les uns aux autres. C'est clair que ça aide beaucoup, vu qu'on a la plupart pas encore d'éditeurs ou c'est un début de projet, parce qu'on est là pour ça. Donc oui, on a besoin des idées, enfin des déblocages certains, des conseils et tout. Donc, en effet, il y avait ça. Et puis de voir comment fonctionnent les autres, comment ils travaillent en fait. Parce que moi, au début, je ne savais pas comment faire ma cuisine. J'ai dû la développer là-bas aussi. Il y en avait, ils faisaient tout le scénario, tout le storyboard, tout. Il y en avait, ils étaient en live, ils avaient juste une trame et puis ils s'exprimaient. Et j'adorais voir ces différentes façons de faire, même technique, bien sûr, le numérique, l'encre, le découpage. Là, c'était, j'allais dans les ateliers, je disais, ah, mais non, tu fais comme ça, c'est magnifique. Je savais pas que tu le découpais, je croyais que c'était une impression. Enfin, et on découvre des univers à chaque fois incroyables, du monde entier, parce que c'est une résidence. Voilà, donc il y avait des gens d'Afrique du Sud, d'Amérique latine. Enfin, c'était fascinant de pouvoir les rencontrer là-bas. Et des fois, ça durait qu'un mois leur résidence, donc il fallait vite les rencontrer avant qu'ils partent et tout. Mais... Enfin, surtout pour cet échange culturel et voir les multiples sujets abordés auxquels j'aurais jamais pensé, des BD que j'aurais jamais vus peut-être. Voilà, ce côté-là surtout.
On arrive déjà presque à la fin de cette rencontre. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Zoé avant qu'on passe à l'atelier?
Il faut un micro.
Pas de questions?
petite question, allez. Oui, Flore.
Oui, madame.
Oui, madame, pardon. Je ne la connais pas, bien sûr. Oui, je suis sur ma prochaine BD. Donc, c'est, je ne peux pas trop en parler, c'est que le développement, voilà, tout début. Mais ça sera en lien avec des chercheurs et chercheuses françaises et françaises que je commence à rencontrer. Et c'est un point de départ, encore une fois, pour des aventures de science-fiction. Encore plus poussées dans l'univers de la science-fiction, on va dire. Mais j'adore regarder ce point dans le réel. Voilà, et c'est aussi une excuse pour parler de recherche actuelle à la fin du livre ou intégrer. Je vais voir encore. Ce sera un peu différent que dans les faits scientifiques.
Messieurs, dans le cadre des jeudis de la BD, la BPI vous propose...
Avez-vous des questions ?